L'amour est un sentiment envers un être ou une chose qui pousse les personnes qui le ressentent à adopter un comportement plus ou moins rationnel, les entraînant principalement à rechercher une proximité pouvant être tendre, physique, passionnée, intellectuelle, spirituelle, voire imaginaire, vis-à-vis de l'objet de cet amour. L'amour peut être, selon la situation, faible, fort ou obsessionnel. Selon ces critères, il peut être plus ou moins contrôlé par la personne qui le ressent. Par extension, l'amour désigne nombre de choses qui sont liées à ce sentiment, telles que, par exemple, l'objet de cet amour, mon amour, une émotion complexe. L'amour est une émotion affective à la fois simple et complexe, perturbée par les cultures, débattue depuis des siècles et encore débattue de nos jours. Cet attachement affectif est un sujet de biologie, pourquoi l'amour ? De psychologie, l'impact de l'amour et de son absence. De sociologie, son rôle dans les relations humaines. De philosophie, dans quel but aimer ? De théologie, l'amour de Dieu. D'art, l'amour dans tous ses arts. De divertissement, les plaisirs de l'amour. D'économie, le commerce de la rencontre amoureuse. Et de science exacte, les molécules mises en jeu. Dans la Grèce antique, voir, amour, sur le dictionnaire. Ce terme d'amour recouvre trois sentiments distincts de la Grèce antique, l'éros, la philia et l'agapé. Astérisque, la philia se rapproche de l'amitié telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est une forte estime réciproque entre deux personnes de statut sociaux proche. Elle ne pouvait exister à l'époque qu'entre deux personnes du même sexe, du fait de l'inégalité entre les sexes. C'est une extension de l'amitié. Astérisque, l'éros désigne l'attirance sexuelle, le désir. Il est l'une des passions néfastes que produit l'épithumia dans la pensée platonicienne. Cependant, il pouvait se mêler à la philia à travers la pédérastie. Hein ? Astérisque, l'agapé est l'amour du prochain, une relation univoque que l'on rapprocherait aujourd'hui de l'altruisme. Il se caractérise par sa spontanéité, ce n'est pas un acte réfléchi ou une forme de politesse, mais une réelle empathie pour les autres, qu'ils soient inconnus ou intimes. Dans la tradition chrétienne des pères de l'Église, ce mot est assimilé au concept de charité, bien que celui-ci soit plus proche d'une relation matérielle établie avec des personnes en souffrance. L'agapé originel ne revêt pas cette connotation morale de responsabilité devant une autorité divine. Thème philosophique. Vivre d'amour et d'eau fraîche est un idéal rêvé par certains. Ni guerre ni labeur, uniquement l'amour. Peace and love, paix et amour. Plaisir de la non-violence, de la séduction, de l'érotisme et des divertissements sexuels. L'amour est un thème abordé avec profondeur par la philosophie. Par exemple, pour répondre à cette question, l'homme est-il à la source de l'amour ? Qu'il vit ou l'amour est-il un concept naturel qui s'impose à l'homme ? Le philosophe Baruch Spinoza, qui s'est beaucoup penché sur la question, notamment dans son éthique, définit l'amour ainsi. L'amour n'est autre chose que la joie, accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Nous voyons également que celui qui aime s'efforce nécessairement de se rendre présent et de conserver la chose qu'il aime, de guillemets fermant. Astérisque Georges Bataille, les larmes d'Eros. Astérisque Michel Onfray, théorie du corps amoureux. Astérisque Ovid, l'art d'aimer. Astérisque Ovid, les remèdes à l'amour. Astérisque Platon, le banquet. Astérisque Platon, Phèdre. Astérisque Rainer Maria Rilke, lettre à un jeune poète. Composante fondamentale des religions. Toutes les religions traitent de l'amour. Principe fondateur de la religion chrétienne, les sociétés judéo-chrétiennes sont fortement marquées par cette notion religieuse de l'amour. L'amour pousse un individu à avoir la foi en son Dieu. La théologie est la spécialité qui traite de ce sujet. L'amour du prochain se définit comme une force intérieure qui pousse un individu à rechercher la paix et à la partager avec les autres. Le désir d'amour se traduit par celui d'être avec l'autre ou les autres, celui d'accepter de recevoir et de donner, celui de dialoguer, de vivre avec, de comprendre, d'accompagner, etc. Dans les bouddhismes Mahayana et Vajrayana, bouddhisme vietnamien, Ch'an, Zen, Lamaïsme. L'amour est l'une des quatre qualités d'être que le pratiquant doit développer, l'un des quatre infinis, ou quatre incommensurables, l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Les Tibétains définissent l'amour comme un souhait du bonheur de l'autre, la compassion comme un souhait de cessation de la souffrance de l'autre, la joie comme une participation à son bonheur, l'équanimité comme le fait d'être attentif de façon semblable à tout être et toute chose, sans établir un attachement privilégié. Tout pratiquant du bouddhisme Mahayana doit souhaiter la bodhicitta, l'esprit d'éveil, souhaiter obtenir l'éveil ou les qualités spirituelles pour le bien des êtres, et ultimement libérer définitivement les souffrances humaines. Karuna Sansk est traduit par compassion en français et loving kindness en anglais, une activité d'attention aimante envers l'autre. Au Tibet, l'on décrit la compassion comme l'attitude de la mère attentive face à ses enfants. Dans le bouddhisme Mahayana, d'une façon générale, la compassion, ou amour-tendresse, est à développer conjointement à la sagesse, compréhension de la nature réelle, objectif des phénomènes, philosophie du non-soi, etc. La sagesse permet de s'affranchir de l'idée du soi, donc de toute tendance égotique ou narcissique. En cela, elle participe à l'émergence d'une compassion infinie. De même, la sagesse exige une grande compassion pour être actualisée. L'extinction de l'illusion du soi, pour les bouddhistes, exige une infinie dévotion, une immense abnégation. Aussi, pour les bouddhistes du Tibet, sagesse et compassion, ou amour-tendresse, se développent l'un l'autre jusqu'à conduire le pratiquant dans une terre pure de bodhisattva, c'est-à-dire jusqu'à l'actualisation du potentiel humain d'amour, de joie, de compassion et d'équanimité. Dans le bouddhisme ancien, selon l'enseignement du Bouddha, cette vision de l'amour n'apparaît pas. Le Bouddha insiste surtout sur le détachement, qui conduit à la suppression du désir, et donc au bonheur durable, cessation de la souffrance, nirvana. Ce n'est qu'entre les 6e et 4e siècles après Jésus-Christ qu'émergera le bouddhisme Mahayana, pour lequel l'action de compassion et d'amour envers l'autre prime, sur l'ascèse et la méditation. Pour les bouddhismes issus des développements du Mahayana et du Vajrayana, amour, joie et compassion ne sont pas des émotions, mais de véritables qualités d'être. Les émotions telles la colère, la jalousie, la peur, l'avidité, l'orgueil, passion, ne sauraient durer, elles sont passagères et proviennent de l'attachement et du désir. Au contraire, l'amour, la joie et la compassion peuvent se développer infiniment et sans être nécessairement dépendantes d'un objet ou de la présence d'un être. Le pratiquant peut les porter en lui, les développer infiniment et au-delà de tout attachement. Amour et famille. Dans son dernier ouvrage, Le premier amour, Plomb, 1999. Les enfants sont de grands passionnés et savent très tôt ce qu'aimer veut dire. On aime à 3 ans comme on aimera toute sa vie, explique le psychosociologue Francesco Alberoni. 3. Le lien originel serait la première histoire d'amour selon les chercheurs, une continuation de quête à toutes les histoires amoureuses convoitées. L'attachement sexuel présenterait dès la naissance une activité neurophysiologique qui se maintiendrait dans l'enfance pour déborder physiquement sur l'âge adulte avec l'afflux d'hormones provoquant des réponses physiologiques à l'adolescence. Jean-Paul Tassin, neurobiologiste au Collège de France, indique que les histoires d'amour sont des éléments émotionnels dans le processus cérébral qui sont un prolongement du lien maternel. Dès la naissance, un rapport à la mère basé sur la recherche de plaisir sensoriel se crée, explique-t-il. Avec ce premier rapport hédoniste, l'enfant au cours de son développement se bâtit ce que l'on peut appeler un bassin attracteur. Il intègre petit à petit ses satisfactions premières et va passer sa vie à rechercher chez les autres des stimuli analogues. 4. La famille est un lieu riche en relations amoureuses. Amour conjugal, amour maternel et de manière plus générale, parental, amour filial, fratrie. L'importance de l'affection des membres d'une même famille entre eux est illustrée par l'émotion vécue dans les grands événements tels qu'une naissance, un mariage, un succès, une épreuve, un accident, un décès. L'amour défini par ses contraires. Les sentiments contraires à celui de l'amour seraient la haine, la peur, voire l'indifférence. Mais on dit aussi qu'une très mince frontière sépare de la haine un amour devenu passion. Par exemple, le fait de ne pas être aimé peut susciter un sentiment de vengeance envers l'objet aimé. L'amour est un sentiment puissant, une intense émotion, voire une pulsion. L'indifférence est donc antagoniste de l'amour. Celui qui est indifférent n'est en effet, en aucune manière, réceptif et attentif à l'autre. L'amour qui attire les êtres les uns vers les autres s'oppose alors à la peur, qui éloigne les uns des autres, la haine étant un amour destructeur. L'autre n'est pas amour, il agit par intérêt de l'autre. L'amour fut, mais il n'est point. Où est l'amour ? Dans le vice et l'absolu contraire. L'amour et les arts. Dans toutes les époques, l'amour, comme désir, a inspiré les artistes de toutes les disciplines artistiques. C'est un thème récurrent et majeur avec le temps, conséquence de la naissance, de la vie et la mort. Les thèmes de l'amour dans les arts plastiques. L'amour a toujours été un thème de prédilection dans l'histoire de la peinture et de la sculpture par la représentation de situations amoureuses, ou par la symbolique ou l'allégorie, faisant intervenir des personnages mythologiques. Certains thèmes ou personnages mythologiques ou historiques reviennent. Astéris Géros ou Cupidon, dieu des amours profanes, est souvent représenté dans des scènes, comme sujet principal ou comme personnage secondaire, pour évoquer la présence symbolique de l'amour. Enfant ou adolescent espiègle et capricieux, elle est portant un arc, avec lequel il tire des flèches d'or dans les cœurs humains, ce qui leur apporte amour et désir d'amour. Les scènes les plus représentées sont l'amour des roses pour Psyché, l'enfant Turbuléros désarmé par sa mère Vénus, la victoire de l'amour sur les œuvres humaines, voire la célèbre version du Caravage, ou la lutte entre l'amour profane et l'amour sacré. Astérisque Aphrodite, ou Vénus, déesse de l'amour, mère de Eros/Cupidon, inspire souvent les peintres, notamment pour l'épisode de sa naissance. Elle apparaît au monde déjà adulte, nue et sortant de la mer. Les versions de Botticelli, confère, la naissance de Vénus. Cabanel, Fantin Latour ou Bouguereau comptent parmi les plus célèbres. Astérisque la vie amoureuse tumultueuse de Zeus/Jupiter a également fait l'objet de nombreuses représentations. L'enlèvement de Léda, de repos de Ganymède sont parmi les thèmes les plus souvent traités. Astérisque les grandes histoires d'amour de l'histoire ou de la littérature, comme Tristan et Iseut, Roméo et Juliette, Ulysse et Pénélope et bien d'autres, ont été traités en peinture, surtout dans les périodes romantiques, pré-raphaélisme, romantisme, etc. Par ailleurs, nombre de scènes amoureuses de la vie quotidienne des hommes ont été représentées depuis la cour faite à l'être aimé au drame amoureux, en passant par le baiser langoureux ou le libertinage. Un exemple est le tableau de Fragonard nommé Le Verrou. Dans la littérature, l'art poétique et le roman sont, avec la chanson, quelques-uns des moyens de prédilection de l'expression verbale de l'amour. À travers les âges, la littérature a reflété des tendances de l'amour, des divinités mythologiques à l'amour réaliste de notre époque. Les interprétations psychologiques de l'amour. Psychisme. Sur le plan psychique, la psychanalyse considère que les premières relations parents-enfants sont déterminantes dans l'esprit d'une personne et de sa perception de l'amour. Les relations mère-fils ou père-fille, notamment, sont particulièrement marquantes. Les relations parents-enfants sont généralement déséquilibrées. Le parent répond aux besoins de l'enfant. On dit dans ce cas que l'amour de l'enfant est captatif et celui des parents oblatif. En grandissant, l'enfant apprendrait à rééquilibrer ses relations. Cet apprentissage peut échouer à tel ou tel moment, et l'adulte en gardera un manque de maturité s'il n'en prend pas conscience et une perception de l'amour plus ou moins blessée. Les relations de ses parents entre eux seraient aussi importantes dans la construction de cette idée de l'amour. Élégie et manque d'amour. Peinture utopique de William Bouguereau, 19e siècle. Combler un manque. L'amour peut être perçu essentiellement comme la quête d'un manque, lorsque la notion oblative ne s'est pas développée. L'amour que l'on porte à une personne ou à un objet naîtrait par ce qu'il nous apporte ou est susceptible de nous apporter. Aimer ne serait autre qu'une façon inconsciente d'avouer sa propre impuissance à l'autonomie, pour un besoin particulier à un moment donné. Besoin d'aimer ou besoin de se sentir aimé ne serait autre qu'un besoin égoïste, qu'une attente de la personne qui pourrait combler les manques immatériels ou matériels que nous ne serions pas capables de satisfaire par nous-mêmes. Par exemple, en Occident, le besoin d'un enfant entraînerait le besoin d'une compagne ou d'un compagnon à nos côtés, besoin qui nourrit un sentiment d'amour ou de besoin d'amour pour la personne que l'on attend pour concevoir cet enfant. La réalité psychique du besoin d'enfant résiderait plus dans un besoin de sécurité motivé apparemment par le bien de l'enfant, le nourrir et l'accompagner vers l'âge adulte. Mais cette attitude, apparemment généreuse, sous-tendrait en fait un désir caché du parent d'être accompagné vers la vieillesse. Dans ce type de situation, aimer ou dire « je suis amoureux », ce serait une façon inconsciente de dire « j'espère que la personne pour laquelle j'éprouve des sentiments amoureux m'apportera les choses que j'attends d'elle ». Tant que l'on sent chez la personne aimée la présence des choses que l'on attend d'elle, le sentiment perdure, mais si la personne aimée perd ou ne dispose pas d'une partie de ce que l'autre attend, le sentiment d'amour s'estompe ou s'éteint. Lorsque ce sentiment s'estompe, il n'est pas rare d'entendre « nos deux chemins se sont séparés, car mes besoins ont changé, nous n'avons pas suivi la même route, etc. » À ce moment, la personne qui se sent en danger peut être sujette à des crises d'anxiété. La personne quittée peut y être plus ou moins indifférente. Si tel n'est pas le cas, celui qui est abandonné aura probablement un sentiment de tristesse, de jalousie, de colère ou même de haine. Lorsqu'on analyse ce type de relation, on est tenté d'utiliser des rapports proportionnels et de donner une note de 1 à 100 à l'amour, offert à la personne aimée, par exemple 75, l'autre personne ne pourrait pas aimer au-delà de 25. Cette relation amoureuse serait, par définition, déséquilibrée. Si le déséquilibre demeure trop important, la séparation devient la seule porte de sortie, car la relation devient insupportable pour les deux parties tant les reproches, les disputes sont présentes. C'est la personne qui aime le plus, qui ferait le plus de reproches, ou provoquerait le plus de disputes. L'histoire d'amour qui dure serait une histoire dans laquelle la note d'amour des deux belligérants serait proche de 50, une sorte d'équilibre mu par les indispensables projets avoués ou inavouables des deux êtres qui s'aiment. Les comportements amoureux, zoologie. Comportements amoureux, chez les hominoïdes, zoologiquement, la vie et le comportement sexuel de l'homme présentent de nombreux points communs avec ceux des autres primates et plus généralement avec l'ensemble des mammifères. L'observation de l'espèce la plus proche de l'Homo sapiens sapiens, le chimpanzé nain du Congo ou bonobo, Pampaniscus, ainsi que celle des autres grands singes, suggère que l'amour ne serait qu'une forme évoluée de phénomènes existants, déjà chez nos cousins, sous forme atténuée. Physiologiquement, le coït tel qu'on l'observe chez l'Homo sapiens ne diffère guère de l'accouplement chez les grands singes. En revanche, la séquence amoureuse, des premières approches, de la séduction jusqu'à l'accouplement, semble avoir évolué parallèlement à l'hypertrophie du cortex cérébral dont a été dotée notre espèce au cours de son évolution récente. Les aptitudes à l'idéation, l'imagination, l'anticipation et à la stratégie qui en résultent ont complexifié le processus à l'extrême. L'attachement durable, la formation de couples relativement stable s'observe également chez nos cousins, mais sans atteindre la diversité des comportements individuels, la durée et le rôle fondamental de l'imaginaire constaté dans la vie amoureuse humaine. Un autre facteur qui nous distingue des singes, avec d'énormes conséquences, est la disponibilité quasi constante de la femelle humaine à l'accouplement, ce qui n'existe pas chez les autres mammifères. Les zoologues se sont, en outre, intéressés à l'avantage concurrentiel, du point de vue de l'espèce, que donne l'amour tel qu'il se manifeste chez l'homme. Il apparaîtrait comme nécessaire à la sécurisation du couple durant la période d'extrême vulnérabilité des jeunes, elle-même suivie de la phase de développement de l'intelligence d'un adulte, moment qui, rapporté à leurs équivalents chez les espèces proches, sont extrêmement longs. En outre, les comportements sexuels se manifestent de manière extrêmement variable chez les animaux. 5. D'un point de vue évolutif, la grande variété des comportements amoureux influencerait la diversité des espèces. Aspects neurologiques et biochimiques du sentiment amoureux, le désir charnel, la passion amoureuse, se caractérisent d'un point de vue biochimique par la libération de phéromones et la modification des taux hormonaux. Cet état altéré de l'esprit, inhibant notamment les aires cérébrales associées à la critique de l'autre et à l'ennui, peut durer plusieurs années. Chez les animaux, par exemple, une intervention dans un processus naturel comme l'accouchement perturbe l'attachement de la femelle envers son petit. Ainsi, des brebis parturiantes, ayant subi une anesthésie péridurale, ne manifestent pas de comportement maternel. 6. Relations sexuelles. Signe formant un cœur. L'amour ne diffère pas fondamentalement dans les diverses cultures humaines, les parades de séduction restant à la base les mêmes en Afrique, en Orient, en Europe ou en Amérique du Nord. C'est plutôt l'attitude à l'égard du désir féminin, dont la répression est fréquente dans beaucoup de sociétés, voire aussi comportement et langage, qui change de forme extérieure. En général, la parade amoureuse est initiée par la femme, dont l'attitude exprime de façon plus ou moins explicite sa disponibilité. Les hommes tentent de solliciter les femmes, drague, séduction, etc. Ainsi, un contact sexuel, non précédé d'un feu vert féminin, plus ou moins tacite, n'a que peu de chances d'aboutir. Bref, nécessaire, le comportement amoureux dans le monde. Le comportement sexuel varie fort peu suivant les diverses sociétés humaines. Les modes de séduction, de contact, les parades et les expressions faciales ne présentent que des différences mineures et très extérieures. L'Europe n'a plus le monopole de la représentation massifiée du comportement amoureux, pourtant, les deux grandes industries cinématographiques du monde, occidentale et indienne, nécessaire, montrent de manière saisissante le caractère uniforme des représentations collectives de la sexualité dans des cultures différentes, a fortiori sachant que ces deux cinémas ont chacun une aire d'influence qui va bien au-delà de leur sphère géographique propre. Les films indiens sont depuis longtemps projetés dans tous les cinémas du Moyen-Orient et du monde arabe, tandis que le cinéma occidental a depuis longtemps fait la conquête du Japon et de la zone d'influence chinoise. Néanmoins, certains détails comportementaux sont culturellement acquis. Le baiser avec la langue, par exemple, qui semble naturel en Occident, en Chine, dans le monde arabe, en Inde, civilisation ô combien experte en matière de raffinement érotique, du fameux Kama Sutra, écrit par le Brahman Vatsyayana, vers le début de l'ère chrétienne, au conte des mille et une nuits, était probablement inconnu, en Afrique subsaharienne avant l'arrivée des Européens. Dans ma vie secrète, un anonyme licencieux de l'époque victorienne rapporte qu'il a dû apprendre cette pratique qui n'allait pas de soi. Il s'agirait donc d'un trait culturel, mineur, mais réel. L'homosexualité est un comportement attesté depuis la plus haute antiquité et fort bien documenté. D'un point de vue psychologique, l'amour entre homosexuels ne diffère pas significativement de l'amour hétérosexuel. Internet a modifié quelque peu les relations amoureuses dans le monde en facilitant les contacts à distance. De nombreux couples issus de continents différents se sont formés grâce à ce nouveau média. Comportement et langage. Paradoxalement, l'acte le plus naturel du monde, la reproduction, tout comme certaines fonctions corporelles, la défécation, sont accompagnés chez l'homme d'interdits sociaux visibles au niveau du langage et du comportement. Il existe dans toutes les sociétés humaines des tabous relatifs à ces fonctions. L'homme est le seul animal qui se réunit en groupe pour manger mais s'isole pour déféquer. De même, l'acte sexuel se fait de préférence dans l'isolement, l'amour en groupe est considéré comme déviant. Le langage est lui-même empreint de ces valeurs morales qui distinguent ce qui est « propre » de ce qui est « sale ». De tout temps, les religions ont réprimé ces pulsions et se sont servies de leur influence sur le psychisme, menace de souffrance infinie dans un autre monde. Pour mieux embrigader les crédules, voire libertinage, célibat, abstinence. Ou au contraire pour en faire le centre de leur philosophie dans certaines sectes, le gourou s'adjuge toutes les femelles du groupe. Le langage distingue ainsi dans sans doute toutes les langues du monde plusieurs niveaux, pour désigner la copulation, poétique, union, vulgaire, baiser et une infinité d'autres termes, médical scientifique, coït, etc. Quelques exemples d'euphémismes qui évitent d'être trop explicites. Alors que les expressions faire l'amour, Thomas Clough sont sans équivoque, on préfère éviter la formulation directe, choquante, en disant coucher avec quelqu'un ou même tos lieb mit seinem body en anglais, mich mit dem schlafen en allemand, alors que justement il n'est pas question de dormir. Au même titre, sich lieben, s'aimer en allemand, reste ambigu et peut désigner autant le sentiment que l'acte charnel. Le choix du partenaire résulte en fin de compte d'un équilibre subtil entre l'attirance consciente ou culturelle, goût commun, littérature, musique, niveau de langage, richesse, comportement social, etc. et l'attirance inconsciente ou naturelle, physique, odeur, sentiment de sécurité, en vue de la procréation, etc.